juste maintenant préciser, faire allusion au cours de ce matin aux théologies. Alors, ceux qui n'y étaient pas, savaient simplement. Je ne vais pas rester trop longtemps, pas une demi-heure. C'est quand ça va appelle ratio entis. Donc cette expression très difficile à traduire, très difficile à préciser, et que de fait vous voyez, parce que dès qu'on traduit, on interprète. Hein. Ça ne peut pas être autrement. Alors, on peut répéter, mais qu'est-ce que vous mettez derrière? Alors, ratio entis, certains traduisent concept d'être. Je n'aime pas. L'acuité, ce n'est pas le concept. C'est le fondement du concept. Bien, la ratio entis, c'est le fondement de ce que nous verrons bientôt. Ce que nous verrons quand même. C'est le fondement de ce que nous verrons bientôt, l'universel analogique. Le fondement du concept d'être. J'ai un concept d'être. J'ai un concept, ce qu'on appelle les transcendentaux. Alors, ces concepts signifient quelque chose qui est au-delà des catégories. Tandis, la fluidité demeure au niveau des catégories. C'est trans-catégorie. Alors, à la place de dire fluidité, on ne va pas dire la fluidité de l'être. On dira ratio entis. Vous voyez ? Alors là, ratio entis traduit directement le logos. Hein. Le logos, on le met à toutes les sauces. Hein. C'est comme il y a de ces mots qui sont terribles, parce qu'ils sont mis à toutes les sauces. Alors, fluidité est inventée pour mettre la différence entre l'aspect fondamental de l'intelligibilité de l'être et l'aspect catégorial. Les catégories, ce sont les formes déterminées. Vous voyez, les catégories, je vous l'ai dit, les 10 catégories, j'espère que vous les avez par cœur. La substance, la qualité, la quantité, la relation, et ainsi de suite. Alors, vous avez les catégories qui sont. Oui, à l'examen, vous ne pourrez pas dire ça, mais. Alors, les catégories sont les formes qui ont leur fluidité propre, le dotier d'état propre de chacune. Mais l'être, est au-dessus de ces déterminations, il est plus radical que ces déterminations, et c'est pour ça qu'on dira dessus. Mais il y a un parallélisme entre les deux. Ça, c'est on va essayer de comprendre ça progressivement. Alors, je vois d'abord ici la naissance de l'universel, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. C'est à partir du concept abstrait qui a sa signification propre de signifier le totienénal de la réalité, le totienénal de la réalité. On connaît la quidité des choses sensibles, comme dit saint Thomas, quiditas rerum naturarum, la quidité des choses sensibles. L'intelligence saisit cette quidité, et l'intelligence la saisit dans le concept, et le concept a sa signification qui exprime la quidité. Et ce concept a un mode universel. Et c'est en réfléchissant sur le concept que je découvre ce mode universel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'universel ? Alors, je reviens à ce que nous avions commencé la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que l'universel ? C'est quand même quelque chose de difficile à bien saisir. Qu'est-ce que c'est que l'universel ? Alors, la définition classique, le kata-olu, l'universel. Le kata-olu, kata-olu. Katholou, ça veut dire le selon tout. Très curieux, le grec, hein, Katholou. Katapathos. Bien même, ça veut dire qu'il y a deux mots pour exprimer tout en grec. Hein. Olos et pathos. Alors vous avez le kata, ça veut dire le selon. Selon le tout. Voilà ce que ce serait. Le selon le tout. C'est curieux comme expression. Hein. Et universitas, l'universel. L'universel, c'est. Qui a le catholique, traduit le catholique, grec, selon le tout. Alors, qu'est-ce que représente exactement l'universel ? L'universel, je prends ce que saint Thomas reprend toujours, c'est l'un à l'égard du nous. Je je crois que ça c'est très important, c'est l'un à l'égard du multiple. C'est-à-dire, l'universel a ce privilège d'unir l'un et l'autre. Selon un jugement métaphysique, l'un n'est pas le multiple et l'un ne peut pas être le multiple. Mais dans la perspective de la réflexion logique, au niveau propre de l'intelligence qui saisit ce qui existe, l'intelligibilité des réalités, l'intelligence, elle, fait le pont entre l'un et le multiple parmi l'universel. Ça, c'est très curieux. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que c'est quand même très curieux de voir comment l'intelligence fait le lien entre l'un et le multiple. L'intelligence ne peut pas rester dans le multiple. Et à travers le multiple, elle saisit l'un. Parce que c'est ça la naissance de l'universel. À travers des multiples, saint Thomas dira ex multis, de multis in multa. Voilà, c'est l'un qui provient du multiple. Quand l'intelligence voit le multiple, elle essaie de saisir qu'est-ce qu'il y a de commun. L'un de ce multiple. Réfléchissez un instant, vous voyez, vous comprendrez ça tout de suite. Je vois des quantités de chiens. Je vois ces chiens différents, ils sont multiples, mais ce sont tous des chiens. Et vous les unissez en disant, il y a le chien. Vous voyez, voilà le phénomène de l'universel qui apparaît. Le multiple, je le rassemble pour découvrir dans le multiple ce qu'il y a dedans. C'est donc l'un à partir du multiple. Et c'est l'un qui est capable de revenir au multiple. Des multis, donc capable d'être attribué à beaucoup. C'est l'aller-retour. On voit très bien, puisqu'il provient du multiple. Il provient du multiple. Il retourne au multiple et il s'identifie au multiple. C'est pour ça que ex des il. Oui, c'est évidemment, il y a un phénomène d'induction de, à partir du multiple, je saisis l'un. L'un, je l'attribue au multiple, l'attribution, et l'attribution implique l'identité. Vous voyez, je prends le mouvement, c'est très très simple pour essayer de comprendre ça. Je prends la multitude des chiens. En regardant tous ces chiens, je dis c'est la même espèce d'animal. Je dis chien. Donc, à partir du multiple, je découvre le chien. Puis une fois que vous avez dit chien, vous pouvez l'attribuer de nouveau à Médor et à Azor. Ou à tel ou tel chien. Ça a une espèce d'importance. Donc, des multis. Je l'attribue, l'attribution. Et une fois que je l'attribue, il s'identifie. Il multa. Vous voyez ? C'est pour ça que ces trois petites expressions sont très très jolies parce qu'elles expriment bien tout le mouvement constant de l'universel. Je ne m'arrête jamais à l'universel. L'universel, c'est un moment. Et ça, ça montre bien. Je pars de là, je découvre l'universel, je reviens au dé, et je m'en souviens. Vous voyez ? S'arrêter à l'universel, c'est la cérébralisation. Très mauvais de s'arrêter à l'universel. Vous n'arrêtez jamais à l'universel. Mais vous êtes obligé de passer par l'universel. C'est le conditionnement humain, ça. Vous êtes obligé d'accepter l'abstraction. Alors vous passez par l'universel. Parce que le langage est universel. Et le langage exprime votre pensée. Et parce que le langage exprime votre pensée, vous passez toujours par l'universel. Vous ne pourriez pas vivre votre vie d'intelligence en refusant l'universel. C'est la condition sine qua non de toute notre vie intellectuelle. C'est là où vous saisissez la pauvreté de votre vie intellectuelle. C'est que vous êtes obligé de passer par l'universel. Que vous l'acceptiez ou vous ne l'acceptiez pas, vous passez toujours par l'universel. Et l'universel qui est donc le fruit de l'abstraction. Alors c'est quand même intéressant d'éterrer la condition sine qua non de toute notre vie intellectuelle. Oui, ça c'est le propre de la logique. La logique découvre ça. C'est comme, vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas faire de science sans l'universel. Impossible. Toute votre induction, déduction présuppose l'universel. L'induction conduit à l'universel et la déduction présuppose l'universel. Et toute ma vie intellectuelle implique l'universel. Mais je veux le dépasser. Je ne m'y arrête pas. Le jugement d'existence présuppose l'universel mais dépasse l'universel. Mon intelligence revient toujours au réel existant. Hein. Pas l'oublier. Moi, je serai ma vie. C'est une maladie intellectuelle de vouloir se gargariser l'universel. C'est un gargarisme particulier. Hein. Alors, se gargariser l'universel, c'est-à-dire uniquement rester dans l'universel pour le plaisir de rester dans l'universel, parce que l'immense avantage de l'universel c'est qu'il provient de moi et qu'il n'existe pas, donc il ne s'oppose jamais à moi, c'est ça qui me avantage. Il vient de moi, il provient de moi, c'est quelque chose qui m'est entièrement comme naturel. Je ne me retrouve pas toujours dedans, hein. Mais c'est quelque chose d'entièrement comme naturel. Ça provient de moi, ça exprime vraiment mon conditionnement intellectuel. Mon conditionnement intellectuel, c'est de produire cela. Je secrète l'universel, maladie, présent, sans y penser. C'est ça qui est extraordinaire. Sans y penser, vous ne pensez absolument pas ça. C'est pour ça que quand on est en train de montrer, quoi. Ouais, c'est pas comme que ça, vous n'y avez pas tellement pensé, l'universel. Alors, nous allons essayer maintenant d'étudier, parce qu'une fois qu'on l'a niché, pour l'étudier, parce que c'est la condition sine qua non de toute ma vie intellectuelle, c'est vraiment très important. Autant que possible de savoir ce que c'est, et de savoir comment l'universel va se présenter à moi. Alors, premier problème, bien sûr, je ne veux pas m'attarder trop, mais c'est quand même intéressant, l'universel. Hein. C'est un problème intéressant. Bonne arête, saisie. Hein, quelque chose qui résiste et qui a quelque chose d'intéressant à saisir. Alors, l'universel, c'est une relation de raison. La première chose qu'il faut, c'est une relation de raison. C'est une relation puisque c'est le lien entre unum, demultis, in multis, ex multis. C'est une relation. Mon intelligence est capable d'inventer une nouvelle relation, l'universel. Et c'est mon intelligence qui l'a fait, hein, l'universel du citoyen. Et c'est une relation de raison. Parmi les catégories, il y a la relation. Et la relation, parmi les catégories, au dire d'Aristote, ce que saint Thomas a repris, c'est la catégorie la plus débile. La relation, c'est la catégorie la plus débile. Parce que c'est une catégorie qui en présuppose toujours une autre. Donc elle s'appuie. La relation joue un rôle très très important dans les catégories. La relation, c'est une chose extraordinaire. Vivre de relations. Il y a des gens qui ne vivent que de relations. Ils sont tout le temps reliés aux autres. C'est ça qui les intéresse. Ils ne vivent jamais en eux-mêmes. Ils sont toujours en relation. Donc on comprend très bien ce que c'est que la relation. Et on comprend aussi très bien que la relation est un être très débile, en ce sens que je suis relatif à quelqu'un. Cette personne disparaît. Ma relation avec cette personne a disparu. Pourtant, moi, je n'ai pas changé. D'où certains diront la relation n'a rien de réel. C'est très vrai. Je suis en relation avec quelqu'un, je suis dans une relation d'amitié. L'amitié, c'est une relation. La présence, c'est une relation. Quand c'est une relation, c'est une relation. La présence, c'est une relation. Je suis en relation face à face avec quelqu'un. Face à face, c'est une relation. Je suis face à face avec cette personne disparaît. Il y a une trappe. C'était la question qui s'était posée. Quelqu'un qui avait assisté à un cours de Sartre, bien tout le monde au départ, mais comme ça, parler indéfiniment sans s'apercevoir du temps du passé, et qu'il est presque aveugle, il ne voit pas, tout le monde disparaissait. C'est ce que je veux, les gens disparaissaient. Alors la question qui s'est posée, le dernier qui restait, il s'est posé la question, c'est lui qui m'a posé la question. Je me suis posé la question, est-ce que je dois investir ça? Je suis le dernier qui m'a posé la question. Je ne l'ai pas. Ou est-ce que je dois disparaître sans rien dire? Je comprends, c'est une situation tragique. On donne un sens à son discours. On a un sens du discours, parce qu'on est là pour recevoir, normalement. C'est donc qu'on a un sens. Les auditeurs donnent un sens au professeur, je vous dis, j'ai un sens. S'il n'y avait pas d'auditeur, il n'y avait pas de professeur. Donc ils sont relatifs. Ils sont essentiellement relatifs. C'est une relation qui s'établit entre celui qui parle et celui qui écoute, normalement. Alors, si celui qui écoute voit que tous les autres autour de lui dorment, et qu'il est pris lui aussi d'une grande dormition très puissante et qu'il se met à dormir, vous comprenez que la relation n'existe plus. Alors est-ce qu'on doit avertir? La politesse consiste à avertir, n'est-ce pas? Je suis le dernier combattant, je reste, mais tous les autres dorment. Ça, c'est pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que la relation. La relation, c'est quelque chose de très curieux au point de vue de l'être, puisque je ne change en rien et la relation peut disparaître. Donc elle est dépendante des deux. Alors on comprend très bien que la relation, c'est toujours une forme qui en présuppose une autre. C'est pour ça que dès que j'étudie la relation, dès que j'étudie philosophiquement la relation, je suis obligé de dire que la relation présuppose un fondement, que la relation présuppose deux thèmes corrélatifs. Le face-à-face, ces deux termes corrélatifs, et présuppose un sujet. Donc il y a trois choses dans la relation, en raison même de son caractère extrêmement débile. En raison même de son caractère extrêmement débile, il y a toujours trois choses. Quand vous voulez caractériser une relation, vous êtes obligé de regarder qu'est-ce qui fonde cette relation. Je reprends la situation lyrique de tout à l'heure de cet auditeur de Sartre. Bon. Il était en relation avec Sartre. C'est bien évident quand il l'écoutait. Cette relation se fondait sur le fait que Sartre parlait et que lui écoutait. Donc le fondement de cette relation, c'est comme dans un dialogue, hein. Le fondement d'une relation, c'est que l'un parle et que l'autre écoute. Si l'un parle et que l'autre ne l'écoute pas, il n'y a pas de relation. Absolument qu'une relation. C'est dans la mesure où il écoute et dans la mesure où il réagit au fait d'écouter qu'il y a une relation qui s'établit. Une relation d'auditeur, c'est une relation d'être auditeur. Auditeur à celui qui parle. Donc c'est toujours par rapport au fondement que je caractérise les deux termes, la présence des deux. On est en présence d'un autre de multiples manières. Je l'écoute, il me parle, une relation. Il peut y avoir d'autres relations. Nous pouvons être l'un à côté de l'autre et travailler en silence. Une relation, on a travaillé ensemble et on est en silence parce qu'on travaille. Alors on garde le silence. On est une relation de travailleurs, juxtaposés l'un à côté de l'autre. Et ça fait quelquefois des liens extraordinairement forts. On a voyagé ensemble. Le voyage est un fondement d'un type de relation, la relation de voyageurs. Et ainsi de suite. Regardez, c'est extraordinaire de voir comme les relations sont multiples et diverses et leur caractère provient du fondement. Et alors, celui qui vit cette relation, c'est le sujet. C'est évidemment que c'est l'homme qui est le lieu de toute relation. Ça, par définition, c'est l'homme qui est le lieu de toute relation. l'homme a bien plus de relations que la vache. Ça, c'est sûr. C'est assez limité, la relation de la vache. C'est une relation avec l'herbe, avec le pré, avec la copine d'à côté. Donc, c'est une relation assez limitée. Tandis que l'homme a une possibilité d'avoir des relations très, très multiples. C'est extraordinaire, ça. C'est les moments, vous savez, où tout est brisé qu'on s'en aperçoit. Ça, c'était une image qui m'est restée pendant la guerre, où tout le monde était sorti de chez soi, et alors ceux qui connaissent à Toulouse la grande place du Capitole, il y a cette place du Capitole qui est très grande, était sur les murs, il y avait des petites fiches, un tel à tel endroit, un tel à tel endroit. Et alors on voyait tous les gens regarder toutes ces adresses, pour voir s'ils ne rencontraient pas quelqu'un. J'ai compris ce que c'était que la relation. Comprenez. Quand vous êtes isolé, coupé complètement, vous cherchez si vous ne connaissez pas quelqu'un parmi tout cet éventail énorme. Et alors, on voit très bien là la différence d'une personne qui a très peu de relations. Ses voisins, ils sortent de son petit village. Celui qui a beaucoup de relations, il arrive trop vite. C'est très curieux ce phénomène hein, qui, encore une fois, n'a rien à voir avec la qualité profonde de la personne. Il y a des gens très extérieurs qui ont des grandes idées de relations publiques comme ça. Communique rien, non rien. Mais pas dire que c'est le vide qui est en relation avec le vide. Ça, ça peut arriver. Ça peut arriver des choses comme ça. Et puis il y a des gens qui ont une très grande intériorité qui ont très peu de relations. Très curieux. C'est un phénomène très curieux, le problème de la relation. Il faut y réfléchir, parce que si on veut faire la philosophie de l'universel, c'est la philosophie de la relation. D'accord ? Comprenons. Donc, comprenons la relation. Comprenons que la relation, parce que c'est l'être le plus débile, il peut y avoir des relations réelles et des relations de raison. Alors là, c'est déjà très important à saisir. La relation réelle, c'est quand le fondement est réel. Je vous parle, vous m'écoutez, il y a une relation réelle qui s'établit entre nous. Parce que ce que je dis existe, et que vous écoutez existe. Donc, il y a un fondement réel. Bien évidemment. Donc, il y a un petit point au voisin, il y a une relation qui s'établit. Celui qui agit, celui qui pâtit. N'est-ce pas ? Et c'est une relation réelle. La relation de raison. Et la relation peut exister en relation de raison, parce que c'est un être justement très très débile. Vous ne pouvez pas parler de qualité de raison. Vous ne pouvez pas parler de quantité de raison, mais vous pouvez parler d'une relation de raison. La relation de raison, c'est quand le fondement provient de l'intelligence. C'est l'intelligence alors qui, par sa propre activité, fonde une relation. Et cette relation n'existe qu'en fonction même de l'intelligence. Eh bien, l'universel, c'est une relation de raison. C'est l'intelligence qui, elle-même, en connaissant, établit cette relation. Elle établit cette relation entre le concept qui signifie la fluidité de la réalité et les réalités existantes dans lesquelles se trouve cette fluidité. C'est l'intelligence qui établit cette relation. C'est l'intelligence qui est capable, par l'abstraction, de saisir dans la réalité existante le noyau intelligible, le noyau central intelligible, et saisissant ce noyau, de le mettre en relation avec les réalités existantes d'où il provient. Vous voyez ce que représente la relation de raison. C'est l'intelligence qui elle-même établit cette relation. La relation d'universel, c'est une relation de supériorité. Curieuse supériorité, mais c'est une supériorité. Où nous, c'est l'un qui dépasse le multiple. L'un dépasse toujours le multiple. Le multiple est rassemblé dans l'un. Anima. Pensez à anima. De l'universel le plus classique. C'est tout à fait le type de la scène plus classique. Animal, il a quelque chose d'un, et il regarde la multitude de tous les animaux. Et c'est l'intelligence qui établit ça. Elle établit ce faisceau de relations. Et l'intelligence devient le centre de ce faisceau de relations. Et ça, c'est caractéristique de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, n'ayant pas une saisie intuitive de la réalité, est obligée d'abstraire, et donc en abstrayant du multiple, elle peut le rassembler. Tandis que si j'avais une intuition sur chaque individu, je ne pourrais pas faire ça. Chaque individu. Et je ne pourrais pas le rassembler avec l'autre. Tandis que, du fait même qu'il y a abstraction, l'intelligence peut rassembler. Alors, nous allons maintenant, si vous voulez, une fois que je vous ai montré que l'universel, c'est une relation de raison, et que je vous ai dit que la relation implique toujours deux termes, un fondement et un sujet, je vais regarder maintenant quel est dans la relation de l'universel, les deux termes, le fondement et le sujet. Là, vous comprendrez mieux ce que c'est l'universel. C'est la seule manière pour nous d'essayer d'analyser. Quand il s'agit des deux termes, c'est assez facile à comprendre. Prenez l'exemple, animal. Animal, je peux concevoir l'animal, je conçois l'animal. Et en concevant l'animal, il est universel. Il est universel, c'est-à-dire qu'il est relatif à un autre terme. Il a une unité, animal a une signification une. C'est vrai, signification une. Animal, ça veut dire un vivant qui implique une connaissance sensible. Pas seulement le vivant. Vous voyez, le vivant, il y a aussi d'autres vies. Tandis que l'animal, c'est celui qui a une vie sensible. Du fait même qu'on est vivant et qu'on a une sensibilité, on est un animal. On va dire, plus votre sensibilité est grande, plus l'animal en vous est grand. N'est-ce pas ? On ne peut pas dire ça, mais c'est le point de vue. Mais justement, les végétaux sont des vivants. Alors, ont-ils une sensibilité, tu vois ? Il y en a certains qui ont presque une sensibilité, quasi-sensibilité. Oui, oui, je sais bien, mais est-ce que ce n'est pas métaphorique ? Au plan philosophique, hein. Vous comprenez qu'on pourra discuter indéfiniment parce que je ne suis pas dans le végétal. Je ne suis pas dans l'animal. C'est pour ça qu'on a une connaissance analogique de l'animal. Je vous ai déjà dit quand la vache regarde le train passer, qu'est-ce qu'elle pense ? Je n'en sais rien. Elle regarde le train passer et voit que tant que le train passe et qu'il est en mouvement, elle reste bonne. Et dès que le train est passé, elle recommence à brouter. Le train a fait un transfert. Elle a oublié l'air et elle a regardé le train. C'est extraordinaire, ça. Mais je ne crois pas que ça lui a mis un complexe. Je ne crois pas. C'est à savoir. C'est le transfert est la source du complexe. C'est évident, c'est la source. Parce que vous avez dérouté un instinct premier. L'instinct premier, c'est de brouter. Le train, c'est un phénomène très artificiel pour la sensibilité et l'instinct de la vache. Donc ça la déroute. Ça la met dans une piste qui n'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que ça apporte à la vache d'avoir à devoir un train ? Au point de vue de son instinct. C'est pas du tout. C'est tourner le lait, peut-être, c'est ça. C'est une action particulière. Alors ça, c'est un transfert. Alors, l'animal, il a une unité et il est en relation avec chien. Ce chien. Voilà les deux termes. Ça, c'est très net. L'animal est attribué à Védor. C'était Védor. Alors, vous avez donc là la relation des deux termes. Ça, ça n'offre aucune difficulté. La difficulté, c'est savoir le fondement de cette relation. Le fondement de cette relation. Le fondement de cette relation, c'est quoi ? C'est l'intelligence qui conçoit. Alors, on va dire que c'est pratiquement le concept. Le concept qui signifie dans chien sa fluidité. Sa fluidité fondamentale. Le chien est un animal. Et quand je dis ce chien, Médor est un chien, je n'exprime pas toute la fluidité. Donc je n'exprime pas toute l'essence, toute la nature du chien. J'exprime ce qu'il y a de fondamental. J'exprime ce qu'il y a de générique en lui. Et j'exprime bien cela. Et donc, je conçois cet animal. Et en concevant cet animal, il y a la signification. Il y a le lien avec son totien animal, c'est-à-dire sa fluidité. Son intelligence profonde. Voilà le fondement. Alors vous voyez ici, c'est ça qui est intéressant à saisir, c'est que ce fondement, il est dans l'intelligence, concevant, saisissant ce qu'est le chien. Et donc, il y a un fondement dans la connaissance et dans la réalité. Si le chien n'existait pas, l'intelligence ne concevrait pas le chien. Elle ne concevrait pas l'animal. Donc, c'est la cuidité qui fonde, la cuidité qui est le fondement. Alors, c'est là, on va faire une petite subtilité, vous voyez bien. On va dire qu'il y a comme deux fondements de l'universel. Le fondement immédiat, la connaissance que j'ai de cet animal. Je saisis ce que cet animal. Et cet animal, je le saisis en saisissant de l'acuité. Et donc l'acuité dans la réalité, c'est comme le fondement dernier. Il y a deux moments, si vous voulez. Il y a deux fondements, si vous voulez, mais qui se trouvent unis dans le concept même. Quand je conçois le chien, l'acuité est présente dans mon intelligence. Et c'est là le fondement premier, immédiat, prochain de l'universel. Le sujet de l'universel. Quel sujet de l'universel? Si je regarde bien, quel sujet de l'universel? Évidemment, c'est le chien. Le sujet de la signification de l'universel, c'est le chien. Alors vous pouvez dire aussi, ah c'est le connaît, celui qui connaît. Il y a toujours deux sujets, forcément. La relation unit deux. La relation est toujours une diade. Il y a toujours deux dans la relation, puisqu'il y a deux corrélatifs. Donc il y a deux sujets. Il y a le chien qui existe, et c'est important. Et puis il y a le sujet connaissant. Vous avez donc les deux sujets de l'universel. Et le fondement fait le lien entre ces deux sujets et me permet de comprendre la corrélation. Ça, il faut essayer de réfléchir là-dessus. C'est à la fois très simple, mais c'est pas compliqué parce que l'universel, quand vous y réfléchissez, ça vous échappe tout le temps. Relation universel, animal, Médor, n'est-ce pas? Oui, je pense l'animal, je saisis ce que c'est que l'animal, et puis je vois la chose. On va le préciser encore, progressivement. Je voudrais simplement montrer avec vous, parce qu'il y a eu, alors, historiquement, c'est intéressant de comprendre cela, historiquement, il y a eu la fameuse querelle des universaux, avec Occam, et avant Abélard, la querelle des universaux. Alors, là encore, nota bene, c'est d'ordre historique, mais ça a une importance, ça a une importance. C'est de montrer l'objectivité ou le caractère purement subjectif de l'universel. Ce que je vous ai dit montre l'objectivité de l'universel, puisque le fondement, c'est la fluidité qui est dans la réalité. Et donc, ça montre bien l'objectivité de l'universel. L'universel a un fondement objectif. Il exprime quelque chose du réel. Pourquoi? Parce qu'il provient d'une intelligence qui est partie du réel et qui, à partir de ce réel, a abstrait pour saisir ce qu'il y avait d'essentiel dans ce réel. Et je peux très bien concevoir, et c'est la conception d'Octave, Occam conçoit l'universel d'une façon tout à fait différente. Occam conçoit l'universel de cette manière, en disant que c'est l'intelligence qui fabrique cet univers. L'universel, il est fictif. Et pour lui, du reste, l'universel, il est uniquement dans la parole. Parce qu'il n'y a pas de concept. Et donc c'est mon intelligence qui fabrique des mots qui sont universels. C'est intéressant parce que c'est très proche de la philosophie analytique d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant. La philosophie analytique d'aujourd'hui reprend la théorie d'Occam. On ne le dit pas, mais en fond c'est intéressant à dire. Parce que c'est important de saisir ce point de vue-là. Alors, on reprend le point de vue, il n'y a pas de concept. Donc, quand je regarde la parole, je la regarde comme un absolu. La parole ne se réfère pas au concept, puisqu'il n'y a pas de concept. C'est l'intelligence fabricatrice, c'est l'intelligence artistique qui réalise cette œuvre. C'est l'œuvre de l'intelligence. L'intelligence artistique fabrique ces mots. Et ce langage est universel. Par le fait même, l'universel ne se fonde plus sur la qualité, sur la nature. Il n'y en a plus. Pour Occam, il n'existe que des individus. Yop Médor, Yop Azor. Qu'est-ce qui rassemble Médor et Azor? C'est un certain nombre de qualités qui permettent de dire qu'ils sont propres à nous. Un certain nombre de qualités. Mais ce n'est pas la nature, il n'y a pas de nature. Il y a que des individus qui existent. Pour Occam, il y a deux choses. Il y a les individus qui existent et l'intelligence qui fabrique tout à fait. Alors, c'est très vrai, la parole possède un caractère universel. La parole est universelle. Et l'universel est donc ce qui va capable d'unir, de rassembler une multitude d'individus. L'universel rassemble uniquement de l'extérieur. Par le fait même, il n'y a plus de signification, il n'y a plus qu'une fonction. C'est là le grand problème. L'universel n'est plus regardé que dans son aspect fonctionnel. C'est-à-dire, l'universel rassemble toute une série d'individus. Mais l'universel n'a plus de signification. Qu'est-ce qu'il signifierait? Rien du tout. Il signifierait le facteur commun de Médor, Azor et tous les chiens. Mais comme il n'y a pas de nature, on ne peut pas dire qu'il signifie la nature. Et donc il est là uniquement comme un langage conventionnel de permettre d'unir et de rassembler toute une série. Mais il n'y a plus de fondement. Mais il rassemble. Ça, on le reverra si mais progressivement, parce que c'est quand même très important, parce que ça fait comprendre tout l'aspect moderne qui dépend de Occam, c'est un modernisme très particulier, mais au fond, c'est exactement la même course. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est que vous ne regardez plus la parole relativement au concept, mais vous regardez la parole en elle-même, et vous la regardez dans sa fonction. Et dans sa fonction, dans la proposition, donc au point de vue linguistique. Vous n'avez pas référence à celui qui parle. Et c'est la différence entre le point de vue analytique, le point de vue structuraliste et la philologie. La philologie se réfère à l'intention, tandis que la philosophie analytique, non. Elle regarde uniquement la parole. Et je regarde la parole pour elle-même. Et je regarde la parole dans sa fonction. Et je ne regarde plus celui qui parle. La parole n'est plus en référence avec celui qui parle, elle est prise en elle-même. Alors vous voyez tout de suite les applications au point de vue parole de Dieu. C'est intéressant, c'est très curieux. Quand je vois la philosophie analytique, parce qu'elle s'introduit en théologie, c'est évident, il y a une philosophie analytique en théologie. Alors cette philosophie analytique en théologie, c'est de regarder la parole de Dieu pour elle-même, sans référence à sa source, sans regarder l'intention de Dieu. Je ne regarde que la parole dans sa fonction conventionnelle, en fonction de telle époque, de tel moment, et ainsi de suite. Et uniquement, point de vue historique, je ne regarde que ça. Puisque cette parole est une œuvre d'art, comme c'est une œuvre d'art, elle dépend du milieu dans lequel elle est née, et je ne peux la comprendre qu'en fonction de son milieu. Elle ne se réfère plus à quelqu'un qui me parle. Quand la parole se réfère à quelqu'un qui me parle, la parole est relativisée. La parole est un signe. Elle n'est plus une réalité que je regarde pour elle-même. Je la regarde en fonction de quelqu'un qui parle. Alors vous voyez, c'est important de voir que Octave est le premier qui, ayant supprimé le concept, regarde uniquement la parole comme le fruit d'une intelligence, comme une œuvre d'art. Et alors à ce moment-là, la parole est gardée pour elle-même et en elle-même. La parole n'a plus qu'une fonction. Elle a bien une signification, mais c'est secondaire. C'est pas ça qui est intéressant, mais elle ne signifie rien d'arrêter. Elle ne connaît rien d'arrêter. Elle a uniquement une fonction d'ensemble. Regardons maintenant, et ça nous aidera à mieux comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une universelle ? Vous savez bien que lorsqu'il s'agit en philosophie d'une notion qui est difficile, il faut regarder comment cette notion se divise. Le procédé de la division. Le procédé de la division, c'est pour clarifier. Or, nous avons ici une division très très belle, très classique, très très belle, de l'universel. L'universel se divise immédiatement. Il se divise immédiatement en genre, l'universel générique, en différents spécifiques, en espèces, en propre, en accident. Alors là, il faut commencer à mieux comprendre, j'espère. Donc, quand l'universel se divise immédiatement, c'est ce qu'on appelle d'une manière classique, il faut que je vous donne le nom classique, parce que c'est ce qu'on appelle d'une façon classique les prédicables. Les prédicables, c'est l'universel qui se divise immédiatement en cinq modalités. L'universel existe toujours ou comme un genre. Tout à l'heure, je vous parlais de l'animal. Prendre l'exemple animal, l'universel, en réalité c'est quoi? C'est l'exemple d'un genre. Quand je dis homme, c'est l'exemple d'une espèce. Vous avez homme, pour que vous compreniez, homme, animal, différents spécifiques, c'est pas ça, rationnel, le propre, capable de faire de la philosophie, la vache en est incapable. Capable de faire de la philosophie, ça caractérise l'homme, capable de rire. Capable de rire. Enfin, c'est le fameux exemple. C'est pour ça qu'on fait si vite sourire l'enfant pour être sûr que c'est un petit homme. Enfin, à ce moment-là, il est intelligent, il sourit. Regardez comme il sourit, il est intelligent. Et c'est très vrai, c'est un signe d'intelligence de rire au bon moment, parce qu'il y a des gens qui rient jamais au bon moment. Alors on voit très bien, c'est un retardement. Alors il y a quelque chose qui va. Alors, c'est donc le propre de l'homme, c'est de sourire. C'est un signe d'intelligence. Et alors, le produit de l'accident, ah, c'est ce qui vous tombe sur la tête. La tuile, l'accident. Il y a tant d'accidents, des choses qui arrivent, qui ne définissent rien du tout. C'est un universel, l'accident. C'est l'accident très particulier. Alors, il faut étudier toutes ces différentes modalités d'universel pour bien comprendre l'universel, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Et par là, nous sentirons toujours plus, c'est pour ça que j'ai été très vite, parce que je ne peux pas m'attarder trop à l'universel. Je crois qu'en voyant ces diverses modalités, on découvre beaucoup plus profondément ce que c'est que l'universel. Parce que l'universel se donne à moi tout de suite dans ces différentes modalités. Alors, c'est cet universel que nous appelons l'universel univoque. Et nous verrons qu'à côté de cet universel univoque, il y a un universel analogique. Ça, c'est, nous verrons ça la prochaine, parce que ce que je dis maintenant, c'est du sable mouvant. Alors, c'est ça, pas ce que je dis. Mais c'est universel univoque, universel analogique. C'est que l'intelligence a deux registres de connaissances, une connaissance univoque, une connaissance analogique. Et c'est à partir de l'universel qu'on saisit le mieux, hein, ce qu'est l'université et ce que c'est que la théologie.